Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce vendredi 26 mars, de nouveaux bras pour vacciner. Les infirmiers, les dentistes, les vétérinaires vont pouvoir faire à leur tour des injections. C'est plus que jamais une course de vitesse avec le virus. En attendant, le Rhône, l'Aube et la Nièvre vont faire l'objet de nouvelles restrictions dès demain. L'Église reconnaît les crimes de pédophilie et promet d'assumer ses responsabilités. La conférence des évêques de France réunie en ce moment n'a jamais eu un discours aussi clair vis-à-vis des milliers de jeunes victimes. Dans RTL Midi aussi, France-Écosse, le 15 de France face à son destin, mais il faudra franchement surclasser l'Écosse pour s'adjuger le tournoi Destination. 84% des Français ont une bonne opinion de cette équipe. On en parlera avec l'invité de ce journal, l'ancien sélectionneur Marc Lièvremont. Un fourgon blindé attaqué à la Kalachnikov à Lyon, en plein centre-ville ce matin. Il transportait de l'or et des bijoux. Les braqueurs sont en fuite. La météo, bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
Un bon arrosage venu de l'Ouest.
Ah ouais, ça y est, c'est parti déjà pour le Finistère qui a de bonnes pluies actuellement. Des pluies qui vont se diriger assez rapidement vers les Côtes d'Armor et vers le Morbihan avant de concerner un gros quart nord-ouest du pays d'ici ce soir. Ce sont des pluies assez soutenues avec un petit peu de vent qui iront de 50 à 60 km/h en pointe. Pour les autres, ça va rester à peu près bien ensoleillé, excepté en Languedoc où là on a quelques entrées maritimes. Côté température, ça reste relativement doux. 12 degrés attendus à Rennes aujourd'hui, 13 à Lille, 15 à Paris, 16 à Marseille, 17 à Nevers et Besançon et 20 degrés à Agen.
Et la question du jour sur RTL.fr, le 15 de France va-t-il remporter le tournoi Destination ? Il y a 35% de oui, 41% non, il y a 35% de oui, c'est ça, 41% de non. Pascal Praud, vous allez pouvoir jouer au petit jeu des pronostics avec les auditeurs au 32-10.
Exactement. Emmanuel Macron a-t-il eu raison de ne pas reconfiner le pays fin janvier ? Ce sera l'une de nos interrogations aujourd'hui. Vous savez qu'il a refusé tout, mea culpa. Le rugby, vous l'avez dit. Êtes-vous plus heure d'été ou heure d'hiver ? Et c'est un marronnier, comme nous le disons dans notre métier, à chaque solstice, à chaque équinoxe plus exactement, oui. Donc vous pourrez intervenir là aussi. Le cinéaste Bertrand Tavernier nous a quitté hier. Quel film vous gardez dans votre filmographie? Voilà les thèmes qu'on pourra aborder entre 13h et 14h30.
Et nous reparlerons du rugby évidemment avec notre spécialiste Jean-Michel Rascol.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Il y aura un avant et un après. La conférence des évêques de France, réunie en ce moment à Lourdes, a décidé de regarder en face la pédophilie dans l'Église, de reconnaître les crimes, d'assumer ses responsabilités. Son président, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, a eu des mots très forts.
Nous éprouvons de la colère, mais surtout de la tristesse et de la honte, en pensant que des prêtres ont pu user du pouvoir que le Christ leur avait donné et que l'Église leur avait confié pour commettre des œuvres de mort sur des enfants et des jeunes.
Et ces crimes en question, qui sont enfin reconnus comme tels, ne sont pas juste le fait de brebis galeuses, Marie Guerrier.
Oui, les évêques le reconnaissent. Hein. Ces actes ont été trop nombreux pour n'y voir que la part d'horreur commise par quelques individus pervers. Recensés sur une longue période et dans une population nombreuse, nous devons reconnaître, disent-ils, qu'il y a là un fait social qui doit être regardé avec lucidité. L'Église de France dit vouloir assumer sa responsabilité devant la société en demandant pardon pour les crimes et des défaillances commises par certains de ses ministres, les crimes des prêtres abuseurs et les défaillances des autorités ecclésiales qui n'ont pas vu ou n'ont pas voulu savoir, qui ont caché des faits, les ont soustraits à la justice et n'ont pas entendu la souffrance des victimes.
Et l'Église propose aussi des mesures concrètes.
Alors il y aura notamment une contribution financière pour les personnes victimes qui en feront la demande, contribution qui sera individualisée en fonction des besoins de soins, ou un forfait pour ceux qui préfèrent. Tout ça dans la limite d'un plafond qui reste à déterminer. Un lieu de mémoire sera installé ici à Lourdes pour recueillir les témoignages des victimes, de leur vie détruite. Pourquoi Lourdes? Parce que tous les diocèses y viennent en pèlerinage et de nombreux étrangers y viennent également. Et puis il y a des mesures pour l'avenir, pour faire de la prévention au sein de l'Église. Les évêques vont continuer à travailler avec les personnes victimes. Et dans une lettre adressée aux catholiques, ils en appellent à l'aide de tous.
Marie Guerrier à Lourdes pour RTL. D'après la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, il y aurait eu au moins 10 000 mineurs victimes de pédophilie depuis les années 50. Vacciner à tour de bras, si le gouvernement veut tenir son objectif de 10 millions de personnes à la mi-avril, toutes les bonnes volontés sont sollicitées. La Haute Autorité de Santé vient de donner son accord pour faire entrer dans le système les vétérinaires, les dentistes, les manipulateurs radio, mais avant tout, les infirmiers, Sophie Jousselin.
Oui, les infirmiers qui ont désormais le droit de prescrire le vaccin, comme les médecins et les pharmaciens. Jusqu'à maintenant, ils ne pouvaient que l'injecter dans les centres. L'ensemble de la profession le réclamait depuis longtemps. C'est un moyen de vacciner à domicile les personnes isolées, explique Patrick Chamberaudon, le président de l'Ordre national des infirmiers.
Ça va nous permettre, pour les patients qui sont isolés, qui n'ont pas de médecin traitant, qui subissent la fracture numérique et qu'on ne peut pas déplacer, de recevoir le vaccin. Donc on va vers les patients avec les doses de vaccin qu'on aura. Les infirmiers auront un nombre de doses réservées en fonction de leur planning et de leur organisation de travail, de façon à recueillir dans un premier temps l'avis des patients et puis ensuite revenir certainement le lendemain ou l'après-midi même pour pouvoir les vacciner à leur domicile.
Les dentistes, les vétérinaires, les manipulateurs radio, les étudiants en médecine savent tous manier la seringue et vont venir, eux, grossir les rangs des piqueurs. Ils injecteront le sérum en centre de vaccination. Au total, ce sont plus de 250 000 nouveaux soignants qui pourront être sollicités au fur et à mesure que le nombre de doses disponibles augmentera et que la cible des personnes éligibles à la vaccination s'élargira.
Poussé par le variant anglais plus contagieux et plus virulent, le nombre de malades en réanimation a dépassé les 4 700 personnes, se rapprochant du pic de la deuxième vague à l'automne. On était à 4 900. On a passé la barre des 200 000 nouveaux cas la semaine dernière. Et ce qu'Olivier Véran, le ministre de la Santé, appelle pudiquement des mesures de protection, va s'appliquer à 3 départements supplémentaires dès minuit, le Rhône, l'Aube et la Nièvre. Comment se prépare-t-on à ce baisser de rideau à Lyon, Frédéric Perruche ?
Eh bien, le moral en berne, les commerçants lyonnais tentent de garder le sourire et d'écouler une partie des stocks avant la fermeture pour 4 semaines. Muriel tient une boutique de prêt-à-porter féminin.
Il faut faire un petit peu de chiffres, je pense qu'on va en faire, clairement, parce que les gens, ils veulent profiter de cette dernière journée. Il y a déjà eu pas mal de clients ce matin qui sont dans cet objectif-là.
C'est la seule bonne nouvelle.
C'est la seule bonne nouvelle, c'est ça, exactement.
Immense inquiétude pour Valérie, responsable d'un magasin de puériculture, qui craint de devoir fermer définitivement.
On n'a pas de trésorerie suffisante, on a des charges qui continuent à courir, les loyers ne sont pas gratuits, les fournisseurs nous appellent régulièrement, il faut que nous, on paye notre stock.
Une vraie crainte de ne pas rouvrir.
Oui, bien sûr, mais comme beaucoup, hein, si on garde les rideaux baissés, eh ben, on gardera les rideaux baissés définitivement et on passera à autre chose.
Quant aux familles, elles pensent déjà aux vacances, gâchées par ces nouvelles restrictions.
Bah, je pense qu'on va rester dans le coin, on ira au parc avec la petite, on ira peut-être trouver un peu de verdure dans le rayon des 10 km et puis...
C'est pas terrible comme vacances.
Non, c'est pas terrible du tout, non. Très petites vacances pourries.
Seul point positif aujourd'hui, la douceur et le soleil qui aident un peu à garder un brin de morale.
C'est déjà ça, merci Frédéric. Et l'épidémie court dans les établissements scolaires. Le nombre d'élèves contaminés est passé de 15 000 à plus de 21 000 en une semaine, d'après les derniers chiffres du ministère de l'Éducation nationale. On a beaucoup parlé du carnaval sauvage de Marseille le week-end dernier, mais il y a aussi une fête géante en Ardèche, au Vence, avec entre 500 et 1000 personnes, un rassemblement anti-masque, anti-contrainte, avec des jeunes venus d'un peu partout qui ont dansé. La manifestation a été déclarée autorisée et les organisateurs envisagent même de recommencer ce week-end, ce qui paraît quand même peu probable, Guillaume Chiez.
Oui, parce que selon toute vraisemblance, les organisateurs ont trompé la confiance de la préfecture samedi dernier. Il faut savoir que si les rassemblements de plus de 6 personnes sont interdits, en revanche, le droit de manifester, lui, est maintenu. Et pour ménager ces deux positions, les préfets sont appelés à trancher et donner leur aval lorsqu'une manifestation est déclarée. Les organisateurs doivent garantir le strict respect des mesures sanitaires et le préfet valide. Sauf que samedi dernier, au Vence, la manifestation revendique s'est transformée en fête géante et la préfecture a mobilisé les forces de l'ordre pour éviter qu'une nouvelle fête ait lieu demain.
Et le ministère de l'Intérieur, Guillaume, a compté les fêtes clandestines depuis le 15 janvier.
Oui, et plus de 300 fêtes sauvages ont été recensées en 2 mois. Certaines regroupaient plusieurs centaines de participants. Des foyers de contamination, estime Gérald Darmanin, qui cette semaine a réclamé plus de fermeté aux forces de l'ordre, notamment sur l'interdiction de rassemblement à plus de 6 personnes et sur le respect du couvre-feu à 19h.
Guillaume Chiez. L'Allemagne va renforcer les contrôles sanitaires pour les voyageurs arrivant de France avec tests obligatoires et contrôles aléatoires. Nos voisins vont classer notre pays en zone A au risque, sans doute dès aujourd'hui. Je n'ai aucun aucun mea culpa à faire, aucun remords, aucun constat d'échec. Emmanuel Macron ne regrette pas de ne pas avoir reconfiné en janvier. Il l'a dit hier à l'issue du Conseil européen, expliquant qu'il n'y avait pas eu l'explosion qui était prévue par tous les modèles des épidémiologistes. Faux, lui répond Valérie Rabault, la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale.
Les projections existaient le 28 janvier. C'est le Premier ministre qui les a remises au président de groupe. Et on voyait bien que à partir de la fin mars et jusqu'au mois d'avril, les variants, les différents variants, entraînaient une hausse exponentielle du nombre de nouvelles contaminations. Que le gouvernement ait décidé de ne pas en tenir compte, moi je le regrette vivement, mais ils ne peuvent pas dire que ces projections n'existaient pas parce que c'est eux qui les ont fournies. Je ne peux pas accepter d'entendre de dire « cette situation est soudaine et subite », c'est pas vrai. Il y avait déjà des personnes qui avaient tiré l'alerte. Mais elles se réalisent, on le voit, on voit que jusqu'à présent, ces projections se réalisent à 80%. Mais ce qui nous attend après est assez monstrueux. C'est-à-dire, on a une des hausses, on peut avoir jusqu'à la projection qui nous a montré jusqu'à 140 000 contaminations par jour. Je suis très inquiète par ce qui peut nous attendre.
Valérie Rabault avec Jacques Seret pour RTL. Le chef de l'État ajoutait hier dans son intervention qu'il n'y avait aucun tabou et qu'il prendrait toutes les mesures utiles en temps et en heure. Un reconfinement strict n'est donc pas exclu. Sans surprise, la dette a décollé à la verticale en 2020 à 115,7% du PIB. Le déficit public s'est creusé à un niveau inédit depuis 1949. Dans un instant, France-Écosse, le 15 de France est condamné à l'exploit ce soir.
RTL Midi
avec Christelle Rebière.
Le 15 de France va-t-il remporter le tournoi des 6 nations? C'est la question du jour sur RTL.fr. C'est la première fois que les Bleus ont l'opportunité de gagner ce tournoi depuis 11 ans. S'ils battent largement l'Écosse ce soir, il y a de quoi oublier l'épisode de la bulle sanitaire. Pascal Pro, vous allez en parler tout à l'heure avec les auditeurs.
Ce qui me frappe, c'est l'enthousiasme, le plaisir, la joie que produit cette équipe de France. L'autre soir, samedi, il y avait 6 millions de personnes qui ont regardé le match à 18h. 6 millions de personnes. Et il y a 74% des personnes interrogées, par exemple, qui affirment que dans le contexte actuel, le 15 de France a un impact positif quand même sur le moral. Il y a 91% des amateurs de rugby qui pensent que la France va l'emporter contre l'Écosse, et c'était le baromètre Odoxa, RTL, Winamax. 84% ont une bonne opinion de l'équipe de France. Ça ne serait pas le cas dans le football, par exemple, je pense. Ça serait plus compliqué. Donc le rugby reste une image très forte, et effectivement, on attend le match avec impatience.
Jean-Michel Rascol est avec nous. C'est un sacré défi pour les Bleus, Jean-Michel.
Oui, bonjour. Effectivement, c'est un défi parce que pour remporter le tournoi Destination, il faut battre ce soir l'Écosse avec 20 points d'écart en marquant 6 essais ou 21 points en marquant 4 essais. Lorsque l'on sait que l'Écosse est la meilleure défense de la compétition, on peut effectivement dire que la tâche sera difficile. Mais Fabien Galthié a donné comme priorité de gagner le match. Ensuite, les bonnes ondes qu'ont communiqué les joueurs du 15 de France, notamment à la fin du match face à France-Galles, feront peut-être le reste. Écraser l'Écosse, ça serait quand même un drôle d'exploit.
Oui.
On a eu l'essai du bout du monde il y a quelques années. Samedi soir, c'était l'essai au bout du périph. Mais la question que je me demandais, cher Jean-Michel...
Le bout du monde, c'est 94, donc ça date un petit peu.
Mais la question que je vintage, me demandais, c'était 11 ans sans titre du tournoi. Est-ce qu'une aussi longue période est déjà arrivée?
Oui, c'est déjà arrivé, mais il n'y a pas eu de titre, effectivement, mais il y a eu des grandes performances, parce que en 2011, par exemple, l'année suivant la dernière victoire dans le tournoi, il y a eu une finale de Coupe du Monde par un 15 de France, dirigé d'ailleurs par Marc Lièvremont, que je crois que vous allez recevoir. Oui. Donc, il n'y a pas eu de titre, il n'y a pas eu de trophée, mais il y a toujours eu une équipe de France qui prétendait, sauf les 5-6 dernières années, où là, elle était au fond de la vague, et où elle avait vraiment du mal à se faire, non pas connaître, mais à avoir une vraie crédibilité.
Et quoi de plus français que le meilleur joueur de ce 15 de France, Antoine Dupont, super Dupont, c'est un clin d'œil.
On va y venir. Et vous en parlerez, Pascal, avec les auditeurs, dans 20 minutes maintenant. Et nous sommes avec Marc Lièvremont, ancien sélectionneur du 15 de France, vice-champion du monde en tant que joueur en 99 et sélectionneur en 2011. Bonjour Marc Lièvremont.
Bonjour à tous.
Est-ce que le 15 de France peut réussir ce défi ce soir? Parce que l'Écosse, c'est quand même la meilleure défense du tournoi.
Oui, oui, on l'espère tous, bien sûr, mais j'ai entendu votre accroche qui parlait de condamnation. L'équipe de France est condamnée à réussir l'exploit. Je crois que c'est tout sauf une marche vers l'échafaud qui attend les coéquipiers de Charles Olivon. Parce que ça a été dit aussi, hein, cette équipe de France, elle est porteuse de tellement d'espoir, elle suscite tellement d'enthousiasme mérité, avec malgré le fait que effectivement tous les joueurs et le staff et les supporters du 15 de France espèrent toujours un grand chelem, espèrent une victoire. Mmh. Bien sûr, les contenus, les victoires, c'est important. Mais il y a aussi, il me semble en tout cas, cette progression, ces contenus, ces émotions que génère cette jeune équipe. La perspective de la Coupe du Monde 2023 en France, avec, on l'espère tous, un premier titre de champion du monde. Voilà, il y a
Mais c'est pour ça que les Français, c'est pour ça que les Français les aiment tant, ces joueurs. D'après, il en parlait tout à l'heure, Pascal, d'après notre baromètre Odoxa RTL Winamax, 84% des Français ont une bonne opinion du 15 de France. C'est pour sa jeunesse, c'est pour son enthousiasme.
Bah, elle a tout pour plaire. Écoutez, en tout cas, dans cette période particulièrement compliquée, troublée, voilà, elle suscite de l'enthousiasme. Il y a des valeurs que, évidemment, que l'on souhaite tous, la solidarité, l'abnégation, l'envie d'y croire jusqu'au bout avec cette victoire, à mon avis, fondatrice pour ce jeune groupe la semaine dernière contre le Pays de Galles. Et voilà, à l'issue du tournoi, la possibilité encore, certes, il faudra un nouvel exploit, mais j'ai envie de dire que les contenus sont au moins aussi importants que ce titre, et je suis convaincu que des titres, si c'est pas cette année, il y en aura d'autres, soit dans les années à venir. J'ajouterais qu'on est passé très près du grand chelem,
oui.
Parce que cette jeune équipe n'a pas eu trop de chance, hein, parce qu'il faut bien reconnaître que sa seule défaite pour l'instant, c'était contre l'Angleterre, et qui a réussi ce jour-là de loin sa meilleure performance du tournoi. Et la semaine dernière aussi, les Gallois ont réussi un match extraordinaire, et malgré ça, l'équipe de France les a quand même battus. Donc encore une fois, beaucoup d'espoir et beaucoup d'enthousiasme autour de cette équipe.
Vous y croyez-vous en tout cas. Merci beaucoup Marc Lièvremont, merci d'avoir réagi dans RTL Midi, à bientôt. Le Tour de France 2023 partira de Bilbao au Pays Basque espagnol. Les autorités locales ont vendu la mèche ce matin. Dans toute son histoire, le Tour de France s'est été lancé une seule fois du Pays Basque, c'était en 1992 depuis Saint-Sébastien. Une pause et dans un instant, un fourgon blindé braqué à Lyon.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Le braquage d'un fourgon blindé à Lyon, en plein centre-ville ce matin. Il transportait de l'or et des bijoux. Un travail de professionnel, Cindy Hubert.
Oui, cela s'est passé ce matin sur la Presqu'île, dans le 2e arrondissement. Il est 9h15 ce matin quand 3 personnes, au moins cagoulées et armées, attaquent le fourgon. À ce moment-là, les employés de la société spécialisée dans le transport de bijoux sont en train de décharger. Les braqueurs les menacent avec un fusil à pompe. Aucun coup de feu, il n'y a pas de blessés. Les voleurs sont toujours en fuite. Leur butin est estimé à 275 000 euros, de l'or et des bijoux.
Cindy Hubert, ils avaient trouvé le moyen d'arrondir leur retraite. Un couple d'octogénaires a été arrêté par les gendarmes à Sainte-Maxime dans le Var, soupçonné d'escroquerie. Ils vendaient des montres de prestige, mais contrefaites. Et ça leur faisait un joli petit pécule de 100 000 euros par an, Hugo Hamelin.
Ouais, c'était un business qui tournait comme une horloge suisse, hein, plus discret et moins physique qu'un braquage de fourgon. 100 000 euros de chiffre d'affaires par an depuis au moins 5 ans, selon les gendarmes. Et en discutant avec les enquêteurs, on se rend compte que ce couple ne vendait que très peu de montres contrefaites, finalement, mais plutôt des pièces détachées de fausses Rolex, par exemple, en très grande quantité. Des aiguilles, des cadrans, des certificats d'authenticité. Le major Bavet a piloté cette enquête.
Quand il achète, par exemple, une aiguille de montre contrefaite et Rolex, à moins de 10 euros, qu'il a revend 500 euros aux États-Unis, aux Émirats Arabes Unis, puisqu'il vend dans le monde entier. Il vendait au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en Belgique, etc. Donc il arrive à vendre ses mécanismes à 500 euros environ. Donc il arrive à faire une bascule de bénéfices de plus de 400-500 euros sur chaque mécanisme qu'il vend.
Madame à la comptabilité, monsieur en horloger pirate, le couple a finalement tout avoué en garde à vue. Des octogénaires qui étaient experts de la revente sur Internet, des gendarmes spécialisés dans le trafic en ligne, ont même dû être mobilisés sur cette enquête.
C'était une petite entreprise, merci Hugo Hamelin.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et nous partons à Fontaine-Utterte, dans l'Aisne, où un habitant a inventé un ralentisseur pour obliger les automobilistes à lever le pied. Mieux qu'un coussin berlinois ou un dodane, il a laissé ses poules en liberté sur la route, Jeanne Mézia.
Autour de chez Éric Leroy, il y a un terrain vague et des poules. L'une d'entre elles avait pour habitude de s'échapper pour se balader, ce qui ne posait pas de problème jusqu'à ce qu'une rue barrée dans le village fasse augmenter le trafic juste devant chez lui.
J'ai vu en fait la poule qui s'est mise à traverser avec ses poussins. J'ai vu une voiture arriver et je me suis dit, oh là là, la catastrophe. Et en fait, ça a été, on va dire, la chose inverse qui s'est produite, c'est-à-dire que la voiture a ralenti, a stoppé. La conductrice, elle avait même le sourire.
Depuis, elles sont 9 poules à traverser régulièrement la route et permettent de faire ralentir les voitures.
Ben, je ne devrais pas faire ça, les gens devraient rouler à 30 km/h. Franchement, les automobilistes prennent le temps de ralentir, prennent le temps de regarder. J'ai envie presque de mettre un petit panneau en disant, ben, profitez là de ces 30 secondes de moment anti-stress.
Éric Leroy n'a perdu aucun de ses gallinacés.
Elles vont très bien, elles sont heureuses, elles vivent leur vie, on va dire, voilà. Et tout le monde se souvient que la campagne, c'est aussi un endroit où il y a des poules. Et que parfois, elles ont le droit de se balader aussi.
Depuis, à Fontaine-Utertes, les automobilistes font même des détours pour venir observer les poules se balader.
Merci et bravo à vous, Jeanne. C'était votre premier direct sur RTL. On vous en souhaite beaucoup d'autres.
Merci.
Enfin, vous connaissez ce bruit ? Ah, c'est celui de quelqu'un qui croque dans une baguette. Eh bien, la France a choisi de présenter la candidature de la baguette qui symbolise un peu notre pays à l'inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Elle a été préférée au toit de zinc de Paris et au biou d'Arbois. C'est une fête républicaine dans le Jura. L'UNESCO donnera sa réponse d'ici un an et demi. Ça nous laisse le temps de goûter l'excellence de nos boulangers. La météo, Valérie Quintin, profite de la douceur.
Oui, c'est vrai que les températures sont quand même globalement assez douces. On a 20 degrés à Toulouse attendus cet après-midi, 17 degrés à Perpignan, 16 à Metz et à Dijon, 15 degrés pour Paris et Orléans, 14 à Reims, 12 à Nantes. C'est dans l'ouest qu'il fera le plus frais parce que c'est aussi par là que la pluie arrive. On a déjà de bonnes pluies sur le Finistère alors qu'il est des pluies qui vont concerner tout le quart nord-ouest d'ici la fin de la journée. Ailleurs, on va garder un ciel quand même de plus en plus chargé mais parsemé de quelques petites éclaircies de temps à autre avec tout de même des entrées maritimes en Languedoc où là c'est déjà bien bouché et ça le restera jusqu'à ce soir.
Et ce week-end, alors on mise tout sur dimanche.
C'est ça, tout sur dimanche. Samedi, on oublie, c'est la journée de transition par excellence avec encore pas mal d'averses, notamment sur la moitié nord du pays. Un petit peu plus de soleil au sud, des températures qui vont pas beaucoup bouger encore pour la journée de demain. 0 à 11 degrés au réveil entre Aurillac et Perpignan. 10 à 20 l'après-midi du nord au sud, 13 à Paris, à Auxerre ou encore à Rouen. Et puis dimanche, place au soleil partout. 16 degrés de moyenne pour la moitié nord, 20 pour la moitié sud. Un très beau temps, très doux que nous allons conserver pratiquement toute la semaine prochaine.
Yes, faites-nous rêver. Merci Valérie. Pascal Praud, qu'est-ce qui vous inspire ?
À chaque fois que nous avons parlé de la pédophilie dans l'Église, dans les auditeurs ont la parole, ça a été un sujet extrêmement fort avec des témoignages bouleversants. Et effectivement, c'est la nouvelle du jour puisque vous avez ouvert votre journal avec cette information. Les évêques ont voté vendredi une résolution sur la pédocriminalité affirmant que l'Église veut assumer sa responsabilité devant la société. Je ne doute pas qu'il y ait une nouvelle fois beaucoup de témoignages.
A tout de suite, Pascal. On fait une pause et il va être 13h.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Figurez-vous que nous étions très pressés de commencer puisque nous sommes un peu en avance. Il est 12h59.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Paul, qui est là et qui veut intervenir sur les propos d'Emmanuel Macron, qui ne s'est pas excusé. Bonjour Paul.
Non, il n'a pas à s'excuser.
Eh bien, on va développer cette idée. Qui s'excuse, s'accuse, dit-on parfois. Christelle le rappelle des titres.
L'Église reconnaît les crimes de pédophilie et promet d'assumer ses responsabilités. La conférence des évêques de France, réunie en ce moment à Lourdes, n'a jamais eu un discours aussi clair vis-à-vis des milliers de jeunes victimes. Et ces dernières pourront bénéficier d'une contribution financière forfaitaire. Vaccinée à tour de bras, la Haute Autorité de Santé vient de donner son accord pour faire rentrer dans le système les infirmiers, mais aussi les vétérinaires, les dentistes ou encore les manipulateurs radio. Encore faut-il avoir des doses. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, accuse Londres d'exercer un chantage sur les livraisons d'AstraZeneca parce qu'il a un problème de stock pour administrer la deuxième dose aux Britanniques. L'Allemagne, elle, va renforcer les contrôles sanitaires à la frontière avec la France. Pour les voyageurs arrivant de notre pays, test obligatoire, contrôle aléatoire. Pour les travailleurs frontaliers, des discussions sont en cours pour adapter au mieux ces mesures. Le canal de Suez, toujours bloqué par un gigantesque porte-conteneur de 400 mètres de long qui est bloqué en travers. La Turquie propose son aide à l'Égypte pour remorquer ce géant des mers.
Merci Christelle, et pour le plus grand plaisir des auditeurs, on pourra vous retrouver demain, c'est la semaine de 6 jours sur 7. Demain vous serez à l'antenne pour le journal inattendu. Et qui sera votre invité?
Eh bien ce sera Philippe Geluck, puisqu'il expose des chats monumentaux en bronze, des énormes chats de 2,70 m sur les Champs-Élysées. Pas mal.
Et bien ce sera avec plaisir que nous vous écouterons. Les...